après notre session, si vous n'avez pas envie qu'on vous voie, coupez votre caméra. Il y en a deux, trois qui l'ont fait, mais vous pouvez le faire sans problème. Cette intervention sera certainement sur le site internet qu'on va mettre en ligne la semaine prochaine, le mois prochain, pardon.
On pourra transférer le lien à nos équipes, du coup.
Oui.
Okay.
On va vous envoyer tout ça, sans souci.
Super, merci.
Alors, je vais aussi mettre en place, hop, vous mettre en ligne un petit PowerPoint. Hop. Voilà, que vous devez voir. Ouais, merci. Voilà, globalement. Ah bah moi, je ne vous vois plus. Bon, alors j'espère que tout ira bien. Mais globalement, voilà. Si on peut vous offrir ce programme de formation et de sensibilisation, c'est grâce à un projet Interreg zone fonctionnelle de la zone Alsace-Belleval que la ville d'Esch, le Pro-Sud et la CCPHVA ont mis en place ensemble avec un financement du GECT. On remercie donc beaucoup ses partenaires et on remercie aussi le groupe culture et écologie de la ville d'Esch qui a travaillé sur ce programme avec nous, qu'on vous présentera juste après. Ce projet, il s'appelle donc ELO, ou ELO, maintenant en luxembourgeois. On vous en reparlera juste après. Mais avant qu'on vous en parle, je vais laisser la parole à quatre personnes qui sont spécialistes de différents secteurs culturels, avec des approches différentes, mais aussi des points de vue différents sur la transition, et qu'on remercie vraiment chaleureusement d'être là avec nous, parce qu'on est vraiment très très contents de les avoir. Ils, elles ont 15 minutes chacun chacune. Je vous propose de poser les questions que vous aurez dans le chat. Hop, je mets ça comme ça. Si vous avez des questions, vous les posez dans le chat et on arrête, on les posera après. On aura une vingtaine de minutes, 20-30 minutes. Et à la toute fin, on vous présentera rapidement le projet ELO et le programme de formation qu'on vous offrira. Et donc, on va d'abord laisser la parole à Iphigenia Taxopoulou, qui nous fait l'honneur d'être ici. La première intervention est donc en anglais. J'espère que ça ne vous posera pas de problème. Si ça vous pose un problème, vous pouvez mettre des sous-titres en bas, voire suivre mieux. Iphigenia est membre fondatrice et secrétaire générale du réseau de théâtre Mythos 21. Elle est aussi consultante, experte en durabilité environnementale avec un accent sur le secteur culturel et elle est l'autrice de Sustainable Theatre. C'est un livre qui est paru l'année passée et qui est une référence dans le domaine. Et sa présentation va nous offrir un bref aperçu international de la façon dont le secteur culturel et en particulier les arts du spectacle a réagi à la crise climatique et environnementale au cours de ces 30 dernières années, avec quelques exemples d'organisations, de ressources sectorielles, de cadres politiques inspirants. Donc moi, je vais lui laisser la parole. Elle a 15 minutes. Si vous voulez poser des questions ou si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire dans le chat. Iphigenia, je te laisse la parole. Et attention, ton micro est... Voilà, là on t'entend.
Ça va?
Bon.
Ok. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Céline, bon, je vais parler en anglais. So, hello. For me, everybody, I'm going to present to you part of my research on the area that Céline described. About the responses of the cultural sector, in particular the performing arts, in the face of the climate and environment crisis, and with a focus today on cultural leadership and organizational change and climate and cultural policy. So, Céline already said a few words. I come from the theater. I have worked in the theater for many years. I am a founding member of Mythos 21. Which represents a number of important public theaters in Europe, as you may see, and also an associate partner of Julie's Bicycle. So it is this under this hat that I'm here today I have written this book, Sustainable Theatre Theory, Context, Practice, which basically maps the field of this transition of our sector towards an ecological future, which is gradually taking place in the past three decades. I have identified two major areas of how the sector has responded and is still responding. So one big field is what I call enablers, frameworks for sustainability, which are defined basically by climate governance and how this affects climate cultural policy and cultural leadership as it changes in the era of climate change through two main case studies that I have studied, the National Theatre in London and Sydney Theatre Company. Then the second area of this transition, which I call drivers for action, is what happens in the field. So what we call sustainable theatre in practice, on stage and in action. And that is basically focusing on sustainable theatre buildings and operations, sustainable production, so how to begin making theatre in a greener way, and also how to think differently in our creative processes. Creative responses to sustainability refers to how dramaturgy and performance have engaged with the topics of environment and climate change, and eventually how the cultural sector and the performing arts in particular are eventually communicating sustainability towards promoting civic engagement and a culture of sharing. So how have theatre and the performing arts responded to the climate and environment crisis? One way is via institutional leadership. And here I'm offering three examples of pioneering institutions: Sydney Theatre Company with their project Greening the Wharf, the National Theatre with Anti-Future, both started very early, 2007, 2006. But even before that, the Opera in Göteborg, who already launched their environmental program in 2004. Then we have institutional innovation. The Opera de Lyon has worked a lot on sustainable practices. And in the last few years, they have launched a program to green their theater making processes, the sets and costumes and props, and have also launched a joint program with other institutions called OSCAR, which is exactly working on the circularity in the world of the performing arts. Then another example from the US is the Portland Center Stage, which already in 2013 became the first cultural building in the United States to achieve a LEED Platinum Green certification. Then among the pioneers, we have the Festival d'Avignon, which started already in 2011 to have an environmental policy, and the Festival d'Aix-en-Provence, which in 2015 already published a guide to share their experience from working in a manner of circularity, what they call the éco-conception de décor, which they applied themselves and they wanted to share with the industry. Then we have artists engaged, the creatives. So creativity and inspiration is another field where we see sustainability in practice. Katie Mitchell is perhaps the most well-known environmentalist in the field of theatre. She has started early on to work in this direction, not only in terms of topics, but also in the way she makes theatre. One of her first works was on the production of Lungs by Duncan Macmillan, which is a play, if you know it, it's an existential cry in the face of climate change. She staged this in 2013 at the Schaubühne in Berlin, and it was not only the topic of the production, but also the way she created this production, in which the actors are on bicycles throughout the show, along with the technicians of the show, and they actually produce the power needed for the production. So it was a kind of a double symbolic gesture to make her point about climate change. The other photograph is an example of what we call eco-oceanography. It's a field that has gained ground in the past few years. One of the early examples is Donyell Wallace's design for Peter and the Starcatcher on Broadway, which is entirely made of junk. So the whole set, costumes and props are all found in the junkyards of New York, and this design, in fact, won a Tony Award. Then, in the past 3 decades, all this activity, although it has not been so intensive in the first few years, but nevertheless, it has created a wealth of resources and capacity building. So, starting with the very first guide to a more ecologically sound theater, Greening Up Our Houses, which was published in the US in 1993. This is really the very first written document on this transition of our sector. Green Theater by the Mayor of London in collaboration with the theater industry in London was published in 2008. And then over the years, we have a wealth of resources by Julie's Bicycle. They're all available for free on their website, but also many, many guides. We, as a network, we also designed a sustainable culture management course in 2016, all the way to one recent initiative, the Theatre Green Book, which you may know already, on sustainable buildings, operations, and productions. Also, in these last 20 years, we have several transitioning organizations that are made from the sector and are addressed to the sector. We call them transitioning organizations. They are there to help our sector transition to an ecological future. For instance, some of the pioneers, the Center for Sustainable Practice in the Arts in the US and Canada, the Broadway Green Alliance, Julie's Bicycle, they were all founded around 2007, 2008, then Creative Carbon Scotland a few years later, and more recently, Arviva in France or the Canadian Green Alliance. On the other side, we have some interesting practical initiatives. For instance, the Scenic Materials Bank in Hamburg, already operating for 10 years, the New York Materials for the Arts initiative. All of them designed to help the sector endorse circularity and therefore more ecological practices towards sustainability. I very often focus on the National Theatre as an example because it is one of the pioneers. It is a big institution. It has had a lot of impact, not only in England, in the UK, but also across the world, because their project on sustainability has had duration, consistency, innovation, dedication, and it has been endorsed as part of the theatre's public mission. So it is a very holistic approach, and I encourage you to visit the website and have a look at how they present their environmental policy and the main points and the pathway that has led them in the past 50 years to today. So the recent focus is on production. So they're following the Theatre Green Book basic standard, trying to use at least 50% of already existing materials from stock for every production, new production they make, and making sure that 65% of materials from each production are still going to be reused, repurposed at the end of each run. The general idea is that the theatre is committed to become net zero as an organisation by 2030. Of course, they have done a lot of work on their buildings, which has required a significant degree of investment, but also different management systems and behavioural changes. So there have been incredible achievements in terms of energy, heating, and water. For example, between 2019 and 2024, this year, the building's emissions have been reduced by 26%. And besides, they have also tried to reinforce the biodiversity in the area. So all the open areas of the building are full of plants and flowers, and the roof is planted in the way to be able to attract the bees of the neighborhood, and eventually to produce their own honey, which they sell in the theater's bookshop. A great deal of work has also been done on operations, starting with something which I consider to be very important. It's the offering carbon literacy training to their staff. Already 25% of the staff have received this training, and the project is being rolled out to everybody working in the organization in the next few years. Waste is another area where the National Theatre has now achieved, they are recycling about 20 different waste streams. Currently, they have achieved a rate of about 60% of recycling of all commercial and total waste. And the aim is by 26, 27 for them to be able to recycle 65% of all their waste. Food and drink. Perhaps you know that the National Theatre hosts several bars and restaurants in their building. So this is an area that they focus a lot upon. For example, they have banned all the goods that need to travel from far away, especially air travel, and focus on seasonal and local products, but also work with a specialized organization so that there is no food waste. All the surplus food is being redistributed through this organization. And finally, their recent achievement is the National Theatre Green Store. So this is a huge warehouse where they managed to put together everything that they have been collecting over the years. And this is an amazing resource, as you may guess, for all the creatives working for the theatre who are now in a position very easily to find sets, pieces of sets, materials, costumes, props that can be reused in the new productions, and minimizing the need to buy new stuff and to create and to construct new scenic materials to the absolute minimum. What I called an enabling condition in the beginning is something that explains to some degree the success and the duration of the National Theatre project. Of course, it's not only the National Theatre in the UK, there are many different cultural institutions, museums, performing arts organizations that can boast such a great environmental policy. A very decisive factor was that already in 2012, Arts Council England introduced the very first internationally environmental culture policy. They actually made it a funding requirement for all the subsidized sector to report on their environmental impacts, that meant energy, water, and waste, and to have an environmental policy and action plan in place. Now, this was not an obligation that was just thrown on the shoulders of the cultural sector like that. At the same time, the Arts Council, in collaboration with Julius Bicycle, created a support program which included workshops, seminars. The program was intended at building the literacy, the skills, and the capacity in the sector so that the organizations would not feel that they were being punished, but that they were enabled and they could feel confident to act on climate change in order to reduce their environmental impacts and, of course, fulfill their obligations towards their funding body, the Arts Council. It's interesting to see the program's achievements after almost 12 years. So, across the portfolio of the subsidized sector, we can see now about 50% decrease in carbon emissions since the program began. Energy use has been reduced by more than 25%. There is financial resilience, of course, because they estimate that there have been savings of about 16.5 million pounds. But also, and importantly, a new creative ecology has emerged across the sector with clean technologies, sustainable goods and services, green waste solutions, new skills and knowledge. So the sector is changing from inside. If we look briefly at the European level, better late than ever, the European Green Deal has really started moving all the sectors towards that direction after 2020. In our sector, the culture sector, already since September 2020, the European Parliament called for the greening of culture and education programs of the EU. And perhaps some of you know already that we are in the process of creating guidelines for greening the Creative Europe program. This has had incredible repercussions because all these initiatives that you see here have happened because of that. These are mainly coming from the performing arts, and it's just a fraction of the dozens, if not hundreds, of initiatives across the cultural sector in Europe happening right now. From the SHIFT project, the Carbon on like Q2, to Perform Europe for Sustainable Mobility, the SHIFT Culture project for greener culture networks, carbon footprinting in culture institutions in Germany, the IETM Green School, the conference Where to Land, just to mention just a few of the many that are happening right now in Europe. And just to round up, I would like to close with one very good example of how a very robust general policy framework, such as the Green Deal, can really influence and help the transition of the culture sector. So, the Ministry of Culture in France has actually been the very first ministry in Europe to start implementing the idea of sustainable development into the culture sector since 2011. However, the latest iteration of the ecological policy is, to my view, quite exemplary. So, what they call transition écologique is a very thorough and very elaborate policy framework by the Ministry of Culture in France, which provides the culture sector not only with the obligation to transition to a more ecological future, but with everything they need to know or everything they need in terms of support. So the program offers a guide, guide d'orientation et d'inspiration, but it also, which in a sense, takes the sector on this pathway towards sustainability. It includes the axes, les leviers d'action, 5 axes pour piloter la transition écologique dans l'ensemble des secteurs de la culture. It focuses on the sobriété énergétique, of course, because this is the main source of impacts. And very importantly, it offers a centre des ressources pour la transition écologique de la culture, which means that the cadre d'action, which is the contract between the Ministry of Culture and the culture sector towards the ecological transition, comes with a very robust framework of support, which includes financing, labels and standards, outils de mesure, the tools and guides, but also opportunities for training and capacity building. And as an example, I wanted to show you under financing the range of different sources of financing that are offered to the sector to help them in the transition. So, final word, where are we now? We have the general climate policy, the EU Green Deal, the climate law, the national climate policies. We have a lot of mobilization from the sector through networks, professional associations. We have examples of cultural policies to follow: England, Scotland, France, the guidelines of Green and Creative Europe. And we have a lot of cultural leadership, which has now offered us resources, best practice examples, case studies, and knowledge sharing. So I would like to end on an optimistic note that I think we do have what it takes. We have the foundations for mainstreaming the transition. Thank you very much.
Merci beaucoup. Merci Iphigenia pour cette vue d'ensemble sur les 30 dernières années. Merci beaucoup. Je vais rapidement passer la parole à Aude Porceda, qui est biologiste, muséologue et sociologue. Elle a œuvré 9 ans au Musée de la Civilisation de Québec et depuis 2017, elle est professeure en gestion des organisations culturelles à l'Université du Québec à Trois-Rivières et elle s'intéresse à la gestion du changement, en particulier les enjeux de la transition socio-écologique et de l'accessibilité universelle. Et elle va nous parler de la manière de faire atterrir, pour reprendre, je suppose, les mots du sociologue Bruno Latour, faire atterrir la transition socio-écologique dans les musées. Comment et pourquoi? Merci. Tu as 10, 15 minutes? 15 minutes? Merci. On ne t'entend pas pour le moment. Ton micro est coupé.
C'est bon, je l'ai mis.
Super.
D'abord, merci pour l'invitation. La présentation d'Iphigenia, vous allez voir, je vais dire des choses qui vont recouper ce qu'elle dit. Moi, je vais plus présenter ce qui se passe dans les musées, mais j'ai la même conclusion qu'elle sur les 20 dernières années, 25 dernières années. On est passé, enfin, dans mon musée, à la 4-5 musées, dont celui, le premier, à ma connaissance, qui a mis un plan stratégique en place. C'était le musée du Quai Branly à Paris, mais après il y a eu des changements d'équipe et il a perdu le leadership. Et on observe ça au cours des années, c'est qu'il peut y avoir des institutions qui vont être des leaders, puis au bout d'un moment ça passe à d'autres et ça s'effondre et ça se reconstruit. Mais ce que je constate depuis la pandémie, c'est qu'il y a une effervescence jamais observée par le passé et un vrai mouvement international sur ces questions-là. Ce que je pense qui est important de vous repréciser, j'ai repris un texte d'Hebda qui montre bien que l'idée de la transition socio-écologique, ou qu'on parle de développement durable, vous allez voir, je vais vous présenter rapidement quelque chose, c'est vraiment l'idée de sortir, d'être pas juste un endroit pour faire de la diffusion et de la sensibilisation. Maintenant, les musées, les organisations culturelles ont le devoir, la responsabilité de s'engager de manière significative dans leur fonctionnement et pas juste dans le discours qu'ils véhiculent. Je veux juste vous montrer, parce qu'en France, en tout cas en Occident francophone, en tout cas, on utilise maintenant le concept de transition écologique. Il faut savoir que le développement durable change à peu près aux 10 ans de nom à l'international pour redonner un dynamisme et des orientations. Mais au début, on parlait d'éco-développement. Et nous, dans les musées, on parlait à cette même époque d'éco-musées qui fonctionnent et qui sont un peu enfin, qui représentent un peu les premiers pas dans la transition ou dans le développement durable muséal. Et vous voyez qu'il y a des évolutions dans la mise en œuvre du développement durable qui est d'abord basée sur l'agenda 21 de la culture et après des objectifs du millénaire. Et depuis 2015, on parle des objectifs de développement durable qui est un peu le cadre d'action pour aller vers la transition qui inclut des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Plutôt que ça soit traité séparément, ils ont décidé qu'il fallait mettre tout ça ensemble. Et aujourd'hui, ça se décline concrètement dans les organisations culturelles. Donc depuis 2022, on est basé sur la vision de Rob Hopkins, qui est les villes en transition et qui est basée sur les principes de la permaculture, donc avec le basilic qui protège la tomate, la vigne qui protège tout le monde, etc., de l'eau, du soleil, des insectes. Donc cette idée qu'on utilise des ressources, on mobilise les ressources des autres quand on a des faiblesses pour pouvoir se protéger et avancer. Vous voyez que cette évolution du développement durable, elle est visible dans les musées concrètement. On est parti des écomusées qui existent toujours avec une approche très communautaire. Et après, il y a eu les musées de l'environnement. Et depuis la pandémie, on a les musées d'art qui ne s'étaient pas vraiment mobilisés sur ces questions-là. Ça vient vraiment du mouvement des écomusées, de l'environnement et des musées de société. Et dans le monde de l'art, c'était les artistes surtout qui se mobilisaient, mais pas l'institution en tant que telle. Donc là, il y a une accélération parce qu'il y a beaucoup plus de musées d'art dans le monde, mais il y a une masse critique qui fait qu'on voit une accélération dans la mise en œuvre. Et au fur et à mesure, des approches différentes, parties d'abord d'une communauté, puis de l'engagement du gouvernement, puis la mobilisation des citoyens. Et maintenant, on parle même des terrestres, ça veut dire, en prenant les mots de Bruno Latour, des vivants et des non-vivants. Donc, on va s'intéresser tant aux objets, aux insectes, etc., dans les musées, et puis même au territoire. Et l'idée aussi de décoloniser la vision. La vision coloniale, en fait, occidentale, des sciences, de l'art, de l'histoire de l'art, etc. Et puis dire qu'il existe plusieurs histoires, plusieurs cultures. Donc ça, le McGee, qui est en Angleterre aussi, a travaillé sur les, je pense, c'est un des premiers vraiment qui a sorti les choses sur les objectifs du développement durable. Et vous voyez que pour les musées, c'est vraiment l'idée de protéger notre patrimoine, d'encourager la participation culturelle, de réduire notre consommation énergétique. Ça rejoint ce que nous a montré Iphigenia. L'encouragement à entrer en relation avec d'autres secteurs, réfléchir à nos actions à l'échelle locale, nationale et mondiale, et bien sûr, traiter des questions de la pauvreté et des inégalités. Ça, c'est le plan d'action. C'est le premier que j'ai vu. C'est au Centre Pompidou qui a repris les 17 objectifs du développement durable et qui se les est appliqués, qui a créé ses propres objectifs de développement durable pour penser son plan d'action en termes de développement durable. Donc, ça va aller jusqu'à, comme j'ai dit, programmation sur culturelle, mais ça va être aussi travailler sur les marchés publics. Ça va être aussi de revoir comment on peut favoriser la mobilité des employés, mais aussi des publics, et des éco-gestes, et puis aussi travailler sur le bâtiment de manière générale ou la conception des expositions. Donc c'est toujours à peu près autour de ces actions qu'on voit les choses se faire. J'ai repris un autre musée qui est plus petit, le musée McCord à Montréal, qui est un musée destiné aux Premières Nations. Donc là, vous voyez que eux, ils ont pris, parce qu'au Québec, on est soumis aux 16 principes qui viennent de l'agenda 21. Les ODD sont en train d'arriver dans notre approche. Et eux, ils ont carrément fait ils ont consulté leurs employés, leurs partenaires, leur public, leurs financeurs, etc. Et à partir de tous ces petits groupes de discussion, ils ont créé leur propre plan d'action en reprenant les obligations légales auxquelles on est soumis au Québec. Et ils ont créé 9 principes pour eux et 3 axes d'intervention sur la gouvernance, sur la responsabilité sociale et sur l'éco-responsabilité. Mais eux, ils s'occupent des Premières Nations et au Québec, c'est un enjeu très important. Et puis d'autres musées, eux, s'orientent plus, ont plus des enjeux liés à la diversité culturelle, aussi la protection de la langue française et de la culture enfin, québécoise au Québec, parce qu'on est les seuls endroits où on parle français en Amérique. Donc il y a des enjeux d'identité qui sont très forts. J'aime bien utiliser, c'est Isabella Pop en Italie qui a mobilisé, je crois que c'est une des premières personnes qui a vraiment modélisé la mise en œuvre du développement durable dans le milieu muséal. Et ce petit modèle, l'air de rien, il vous permet justement d'y réfléchir et de le mettre en action ensuite. Donc vous voyez que ça va toucher autant la conservation, notre identité, pour la vitalité artistique, pour tout ce qui est culturel, au niveau économique, tout ce qui est fondation, tourisme culturel, tout ce qui est économie locale, et au niveau environnemental, bien sûr, tout ce qui est recyclage, les technologies vertes, tout ce qui est éco-événement, et puis au niveau social, le bien-être, notre rôle sur le territoire, notre responsabilité sociale, etc. Donc un petit schéma qui résume assez bien si on ne sait pas trop comment avancer sur le développement durable. Ce qu'on constate, c'est que les débuts du mouvement, comme je disais, c'est les écomusées, les musées de sciences, puis les musées de société et d'histoire, et récemment les musées d'art. Je parle pas des artistes. Il y a eu un intérêt d'abord pour les expositions et les bâtiments dans les premières années, aux années 2000, même un peu 90, sur l'environnement. Et ensuite, la médiation et la conservation. Et aujourd'hui, on parle carrément de gouvernance responsable. L'engagement, il était beaucoup dans l'éducation des visiteurs. Aujourd'hui, il est dans l'action directe. Ça veut dire que les musées sont responsables, imputables et doivent jouer le rôle de l'inclusion. Par contre, il y a des différences significatives dans la mise en œuvre. Les gros musées sont en train de s'engager, mais les petits musées, ça fait longtemps parce qu'ils n'ont pas de ressources, qui font des choses que les grands musées sont en train de faire. Donc, il y a des différences de mise en œuvre, de niveau et de type d'institution pour lesquelles c'est plus facile de s'engager que d'autres. Donc, il y a des inégalités et aussi dans l'engagement, parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans des petites institutions avec toutes les responsabilités et qui finissent par s'épuiser, ou des personnes qui sont dans des grandes institutions mais qui sont seules à croire à cet enjeu-là et qui s'épuisent aussi. Donc, il faut vraiment monter une équipe, s'assurer d'un engagement en haut et en bas, jouer transversalement, verticalement, horizontalement avec tout le monde pour pouvoir mener le changement sans s'épuiser. Il y a aussi un changement dans la vision de c'est quoi l'écologie. Et donc, on a toutes les sciences de enfin, les humanités environnementales qui sont en train de transformer, et aussi l'approche amazonienne, qui sont en train de transformer notre discours sur l'écologie. Et donc, on a une décolonisation de l'écologie, donc cette vision occidentale qui est en train d'être déconstruite. pour proposer une autre vision basée sur le concept de pluriverse, d'ailleurs, dans Culture Musée, qui est récemment sorti. Vous avez un article sur le musée pluriverse de Bazou, et qui est vraiment très intéressant, et qui vous devez aujourd'hui vous former aux humanités environnementales et à cette décolonisation des récits, parce qu'on entretient dans le discours écologique du machisme, du racisme, etc. Donc il faut revoir même notre manière de parler de l'écologie. Il y a un intérêt pour la décroissance qui vient questionner beaucoup la place de la conservation, parce qu'on doit accumuler, on doit rassembler l'histoire de nos sociétés, mais en même temps, comment on fait quand on n'a plus de place, quand il y a une profusion d'acquisitions, et comment on apprend à refuser, à réfléchir à ce qu'on garde ou pas, compte tenu de la place. Il y a actuellement une course à l'outil pour répondre aux exigences politiques et normatives. Il y a 20 ans, je vous assure qu'il n'y avait pas grand-chose, mais ce qui se fait aujourd'hui ressemble à ce qu'il y a 20 ans, mais en multiplié par 1000. Donc, vous avez beaucoup de possibilités. Après, c'est de trouver le vôtre, parce que quand on transpose ce que les autres ont fait, si on ne passe pas par l'expérience de faire soi-même, souvent, ça s'écroule un petit peu. Il y a beaucoup d'essaimage de projets, parce que c'est la seule manière de changer une culture organisationnelle. Et puis, on voit que selon les pays, il y a des groupes d'acteurs qui sont plus engagés que d'autres. Il y a des besoins, il y a des besoins de connaissances sur cette décolonisation des savoirs, sur des outils simples, sur aussi il y a beaucoup de communautés pratiques qui se mettent en place toutes seules. Nous au Québec, on a Muséco qui travaille sur l'éco-conception. On a des projets pilotes aussi qui sont inscrits dans des enjeux à long terme, pas à court terme, sinon ben, c'est toujours la même chose. Et on voit qu'il y a de plus en plus de soutien qui se mettent en place, et aussi des lois, des règles, des normes qui sont en train de se modifier à l'échelle nationale et à l'échelle sectorielle pour pouvoir faire face aux injonctions contradictoires, donc aux paradoxes que peut amener la mise en œuvre de la transition écologique. Donc là, je vous ai mis des exemples, mais il ne me reste pas beaucoup de temps, de ce qui se fait en conservation avec des musées engagés. Le musée d'ethnologie de Genève est pas mal bon sur tout ce qui est justement décolonisation, ouverture des réserves, réinterrogation justement de la place de la climatisation. Les normes climatiques à l'échelle internationale sont en train d'être revues. Tous nos pourcentages d'humidité, etc., sont questionnés et re-questionnés complètement. Vous avez l'écomusée du Fiermonde qui travaille beaucoup avec les communautés et qui n'a pas finalement en soi quelque part de collection accumulée. C'est les gens qui détiennent les collections. Donc plein de modèles différents qui vont réfléchir sur les principes de conservation, sur les normes climatiques dans les bâtiments, sur les processus d'accès aux objets qui étaient avant réservés qu'aux conservateurs et aux scientifiques et maintenant qui commencent à être accessibles aux communautés et aux citoyens, des politiques d'acquisition jusqu'au refus d'objets. D'engager des conservateurs spécialisés en changement climatique. On a au ROM, Royal Ontario Museum, en Ontario, à Toronto, mais aussi des concours de design sur les bâtiments. Pour les expositions, ça tourne. En France, on a un qui vient de sortir, c'est assez bon. L'Écothèque des Augures, c'est une super boîte à outils. On avait en France le Palais des Beaux-Arts de Lille, qui est un des. Actuellement, qui est le musée à suivre. Nous, au Québec, c'est le musée Mécord actuellement, mais comme je vous dis, ça change. On a aussi une réserve des arts, donc c'est un lieu de ressourcerie, mais qui marche bien avec le monde des arts vivants. Mais le monde des musées, des fois, c'est pas si simple de faire affaire, d'aller dans des ressourceries, se doter, etc. Et on a Paris Musée qui fait actuellement un calculateur carbone, et bien sûr les Creative Green Tools dont a parlé Efigena. Donc beaucoup pour les expositions au niveau du discours, mais on dépasse ce discours vers l'éco-conception et aussi une véritable participation citoyenne pour co-créer, définir les thématiques, intervenir, etc. Et puis bien sûr des bilans carbone. Au niveau de la gouvernance, donc, il y a plusieurs, ça va jouer, comme je vous dis, sur la gestion durable des organismes culturels. Donc, on a des modèles économiques, des modèles d'affaires qui sont en train de s'inventer avec des circuits courts. On a aussi des principes de mécénat qui sont en train de se transformer pour justement faire attention avec qui nous finance, etc. Et même les mécènes demandent aux institutions muséales d'avoir un plan d'action ou une politique de développement durable pour pouvoir les financer. Donc il y a des pressions qui viennent de partout. Et il y a tout un mouvement actuellement du slow museum, parce que même s'il faut continuer à faire de la culture, il ne faudra jamais décroître la culture, comme le dit Serge Latouche, il faut quand même faire attention aux humains qui travaillent dans nos organisations et qui produisent parfois 6 à 10 expositions par année pour les plus grands musées et qui entraînent en soi un épuisement des personnes. Et tout ce qui est communication, marketing éco-responsable aussi, en particulier au Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui fait beaucoup d'efforts sur ces questions-là. Donc, actuellement, il y a une tendance, c'est l'idée d'habiter le musée des terrestres, en fait, et c'est avec ce concept de notion d'habilité. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est qu'actuellement, il y a une vraie, c'est un lieu très conservateur, le monde muséal, et il y a une remise en cause des traditions, de la vision éternelle et immobile des musées, des récits. Pour sortir justement d'une vision étroite, en fait, ou dépassée pour certains, ou avec des valeurs différentes, de voir que le musée, c'est des habitants, c'est pas juste des experts qui sont à l'intérieur, ça va être des citoyens, ça va être aussi des éléments plus naturels, et d'être dans le monde, c'est faire l'espace et de faire en sorte qu'il y ait une rencontre de multiples trajectoires et que le musée devient cet espace de rencontre de multiples trajectoires pour inviter à réfléchir et pour justement favoriser la rencontre avec plusieurs expertises qui viennent d'un peu partout. Quand on parle de développement durable, il y a une véritable gestion du changement qu'il faut mettre en place. Et si on ne dépasse pas, vous voyez, quand on a un choc, vous l'avez bien vu avec les tableaux dans les musées d'art qui ont été projetés enfin des soupes qui ont été projetées dessus, il y a eu tout de suite une réaction de colère et de peur, voire on a mis des gardes et puis on a mis toute une protection. Une fois compris la peur, est sorti de la dépression. Et donc, pour sortir de la dépression dans le changement, il faut se remettre en question. Tant qu'il n'y a pas de remise en question, on ne peut pas passer par l'acceptation et la remobilisation pour reconnaître l'engagement et agir. Donc, sachez qu'à partir du moment où vous mettez en place une démarche de développement durable, vous allez faire face à toutes ces émotions. Des raisons de résister à la transition, ben, c'est qu'on a des biais cognitifs, on croit que les risques sont plus graves pour les autres que pour soi. Et nous, au Canada, on le voit, Vancouver sont plus soumis au changement climatique qu'au Québec, donc ils sont plus actifs sur certaines choses. En fonction de chaque province, c'est différent. Le déni, pour faire face à des informations menaçantes, on préfère nier la réalité. On a souvent aussi une distance temporelle ou psychologique qui rend difficile la perception du changement immédiat et tangible. Mais je vous assure qu'avant, je pouvais compter les musées sur ma main, une main. Et aujourd'hui, c'est impossible de compter le nombre de musées engagés dans la transition. Donc en 20 ans, il y a eu une explosion, des actions. Et des fortes habitudes dans nos styles de vie et de consommation. On est peu réceptif au message de l'urgence, d'où parce qu'il y a beaucoup d'éco-anxiété. Donc attention, faut pas faire peur, faut pas moraliser. Il y a tout un discours d'action, de mise en action et de référents crédibles qui est important pour assurer, pour favoriser les gens dans le changement. Donc c'est ça, faire appel à une motivation égoïste, sociale et altruiste, et puis des activités participatives. Donc, au regard des mutations en cours, il faut s'acculturer à la décolonisation, réaliser vos cahiers de doléances, en fait, c'est comme a fait le musée Mécord, mobiliser tous vos acteurs et acteurs vivants et non vivants, d'une certaine manière, pour identifier vos controverses et mettre en place des solutions, creuser vos controverses pour reprendre le contrôle des incertitudes, créer vos cercles politiques pour agir collectivement. Et ça peut être dans votre localité, mais ça peut être à l'international, parce que des fois, il y a des choses qui viennent de Chine ou d'Amérique du Nord ou je ne sais pas d'où, de réinterroger vos intérêts, vos valeurs, vos croyances et le rôle de chacun et pour entrer en action. Voilà. Donc, dans un monde en transition, prenez des risques. Ce n'est pas grave d'échouer. Il y en a plein d'autres qui l'ont fait avant vous. L'adversité est une chance à saisir. Et l'important, c'est de tenter l'action, d'essayer de mobiliser autour de soi, de réussir à agir collectivement en aspirant confiance, voire d'imposer un sens humain à l'incertitude. Voilà. Merci de votre écoute.
Merci beaucoup Aude pour ces mots de conclusion. On va enchaîner tout de suite avec Julie Grasshaber, qui est chercheuse, qui a été chercheuse sur le projet de recherche Culture for the Planet, mené à l'Université de Lausanne. Et cette étude dresse un état des lieux de la durabilité dans les grandes institutions culturelles à travers le monde. Alors là, Julie, ouais, c'est bon. Et je te laisse la parole. Tu as 15 minutes si possible. Et on t'entend pas pour le moment.
Voilà, c'est bon là, vous voyez?
C'est tout bon.
Ok, très bien. Merci beaucoup, merci pour toutes ces interventions précédentes. Je rejoins effectivement tout ce qui a été dit précédemment. Moi, ça fait depuis 2019 suis un peu le nouveau bébé dans la scène de la culture et durabilité. Donc, ça va être depuis 2019 que je travaille sur ces questions de culture et durabilité. Et moi, quand j'ai commencé, ça ressemblait plutôt à ça. Donc, peu d'initiatives, principalement dans les pays anglo-saxons. Comme Iphigénia a présenté, j'en ai effectivement raté quelques-unes, vu que ça fait bien plus longtemps que ça existe. Mais ce qu'on peut surtout voir, c'est que maintenant, en 2024, ça ressemble beaucoup plus à ça. Et encore, ma slide n'est sûrement pas assez grande pour tout faire apparaître, toutes ces initiatives. Donc, d'un côté, je suis probablement meilleure chercheuse actuellement, mais il faut aussi reconnaître que le secteur s'est réveillé très récemment sur ces questions de durabilité et très rapidement. Il y a une grande reconnaissance de son rôle et de ses responsabilités. Effectivement, les institutions culturelles, elles ont un rôle important. Donc, elles ont vraiment au bénéfice d'une grande confiance de la part d'un public qui est nombreux, qui vient visiter chaque jour ces institutions culturelles et qui vient précisément pour réfléchir, apprendre, ressentir des émotions. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont vraiment clés quand on parle de transition. Et c'est pour ça que ces institutions culturelles, elles ont un rôle important à jouer. Autant en changeant leurs propres pratiques, mais aussi en inspirant l'action dans d'autres secteurs et dans le quotidien de nombreuses autres personnes. Et ça, c'était donc le point de départ du projet Culture for the Planet qui a été mené à l'Université de Lausanne avec le professeur Martin Muller et moi-même, où le but, c'était vraiment de faire un état des lieux de toutes ces initiatives et d'où en était le secteur et confirmer certains ressentis qui avaient été faits et légitimer en fait des recommandations sur la base de faits scientifiques. Le but, c'était vraiment de rester proche de la pratique. Donc pour ça, on avait des partenaires pour d'abord des entretiens exploratoires qui ont confirmé la pertinence de cette étude. On a co-développé aussi un panel d'experts et d'expertes pour suivre cette recherche. Et on a aussi mené des entretiens avec un certain nombre d'institutions identifiées comme pionnières sur les questions de durabilité. Alors peut-être que certains noms vous font réagir. On sait qu'elles ne sont pas toutes parfaites, mais il y a toujours un élément qui mérite notre attention parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en tant qu'institution culturelle, on ne peut pas être parfait. Enfin, si on veut être parfait sur toutes les dimensions, après, on ne fera plus rien. Donc, il y a toujours des éléments intéressants à venir piocher dans différents types d'institutions, que ce soit des arts vivants ou les musées. Et voilà. Donc, pour faire un état des lieux, la première étape, c'était d'identifier sur quoi les organisations culturelles peuvent agir. Effectivement, on ne peut pas se positionner si on ne sait pas sur quoi. Et souvent, il y a une vision de la durabilité qui est plutôt comme ceci, où on a tendance à réduire durabilité égale gaz à effet de serre, émission de gaz à effet de serre, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, dans le projet, les premières étapes, c'est d'identifier des dimensions spécifiques au secteur culturel pour avoir cette vision globale de la situation. Et ça s'est matérialisé dans ce modèle qu'on a appelé The Sustainability Star, qui reprend des dimensions de gouvernance, en fait, qui sont des éléments transversaux et nécessaires à toute transition, des aspects sociaux en jaune et des aspects environnementaux. Je ne vais pas aller dans le détail de ça, mais on pourra revenir si jamais sur ça. Mais l'idée, c'est surtout de garder l'idée de garder en tête qu'il y a plusieurs dimensions sur lesquelles agir, notamment gouvernance sociale et environnementale, et que on peut de nouveau pas traiter toutes ces dimensions, mais c'est toutefois important de se questionner sur plusieurs dimensions avant de choisir ensuite ses priorités. Et d'un point de vue académique, ce modèle, il a aussi servi pour faire un sondage, donc auquel 206 institutions ont participé à travers le monde et qui sont situées en fait sur ce modèle à travers des 8 dimensions sociales, environnementales et les 4 questions de gouvernance pour arriver à un score de 0 à 100 et d'identifier aussi les éléments moteurs et les difficultés. Le premier résultat que je trouve intéressant et qui rejoint aussi ce qui a été dit dans les deux précédentes présentations, c'est que la durabilité, c'est un phénomène récent au niveau stratégique. Donc, ça ne veut pas dire que rien ne se passait. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient. Ce serait vexant si je disais que rien ne se faisait avant. Mais les questions n'étaient pas forcément toujours au niveau du management. C'était plutôt des petites actions et quelques institutions, effectivement, très pionnières sur ces questions-là qui agissaient. Mais ça manquait encore de cohérence et de fondement stratégique. Et pourtant, on va voir par la suite que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Si je vais plus dans le détail, dans les différents scores au travers de ces trois sphères identifiées, on voit surtout que les dimensions environnementales sont encore un peu à la traîne, on va dire. C'est là où il y a encore le plus d'efforts à fournir. En tant qu'institution sociale, c'est normal qu'elles aient agi sur les questions sociales en premier, les enjeux de démocratisation culturelle dont on discute aussi depuis plusieurs années. Mais il y a eu aussi une tendance à se cacher un peu derrière une culture qui serait bonne en tant que telle et qui lui permettrait de ne pas forcément se questionner pour traiter en plus de ça les aspects environnementaux. Donc on voit que les aspects environnementaux sont encore un peu à la traîne et il y a une nécessité d'agir sur ce niveau-là. Si on zoome un petit peu sur l'aspect de gouvernance, on voit un résultat intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'engagement dans le secteur. Ça commence vraiment à être reconnu. Par contre, et ça s'est implémenté aussi dans les visions, les missions de ces institutions. Par contre, il y a encore ce gap qui existe, ce palier qu'il y a à implémenter réellement des mesures et à les communiquer. Et effectivement, c'est bien de pas trop communiquer, on ne veut pas être accusé de greenwashing, etc. Mais par contre, c'est important quand même de communiquer sur ce qu'on a essayé pour justement promouvoir ce partage d'expérience, cette espèce de comparaison positive pour créer une dynamique dans le secteur qui est de plus en plus en train de se produire parce qu'on voit vraiment des résultats très différents entre le début de l'étude et la fin de l'étude. En plus de quelques années, ça a vraiment énormément changé. Donc, ce qui motive ces engagements, on voit que c'est un enjeu de plus en plus stratégique. Donc, 64% des institutions ont noté la pertinence stratégique de s'intéresser aux questions de durabilité. Ça peut être du coup, il y a cette reconnaissance de la nécessité d'être proactif sur les questions de durabilité, d'anticiper les changements à venir, qu'ils soient au niveau des régulations, des coûts, mais surtout d'anticiper plutôt que de venir s'ajuster à la va-vite quand il y aura des choses qui vont réellement nous tomber dessus. Et un autre point important, c'est que ces green teams, donc des équipes internes souvent transversales, c'est très souvent le point de départ de ces questions-là, mais ça reste très rapidement limité en fait. On se limite souvent à la thématique des déchets, parce que c'est là où il y a des actions efficaces, simples et rapides à mettre en place sans avoir besoin de trop de ressources. Mais c'est difficile d'aller plus loin sans un support qui vient aussi de la part de la direction. Et effectivement, quand on regarde les difficultés, on voit un trio gagnant de manque enfin, de coûts, manque de temps et manque de connaissances qui vont se renforcer entre elles. Parce qu'on n'a pas de temps, on va externaliser, mais ça va coûter cher. Donc, ça va tous se renforcer et on voit que ce manque de connaissances, enfin, pour faire face à ça, on voit la nécessité, comme ça a été mentionné avant, de s'entourer, par exemple, de travailler avec des universités aussi, de se former et après de pouvoir aussi autonomiser les équipes. Et il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place et c'est aussi des barrières qui sont amenées à évoluer. Avec le temps, avec justement des nouvelles demandes de la part des gouvernements, des nouvelles attentes de la part du public, etc. On voit que certaines institutions, malgré ces difficultés, s'en sortent mieux que d'autres. Là, ce que vous voyez pour chaque point, c'est une institution qui a participé à notre sondage. Et ce que vous voyez dans le coin en haut à droite, c'est les 14 institutions leaders qu'on a appelées Sustainability Champions et qui s'en sortent très bien, on va dire, sur les aspects environnementaux tout comme sociaux. Et un des points communs qu'ont ces institutions culturelles-là, c'est qu'elles ont toutes un haut score de gouvernance. Donc, c'est toutes des institutions qui se sont questionnées profondément sur leurs propres pratiques et qui ne se sont pas contentées de venir ajouter des petites actions les unes après les autres, mais vraiment qui questionnent de façon cohérente et globale leur approche de la durabilité. Et ça, c'est vraiment un facteur clé pour quand on vient se positionner. Quand on veut agir sur ces questions de durabilité, même si ça peut faire peur, il faut d'abord se questionner pour avoir une vision globale et choisir ses priorités. On ne peut pas agir sur tout, mais il faut choisir ses priorités parmi tout ce qu'on a pu identifier. On a identifié d'autres facteurs au niveau du score de durabilité. Donc, les institutions qui avaient une green team performaient mieux que les institutions qui n'en avaient pas. À nouveau, c'est important parce que, bah, comme le montrait dans l'interview avec le Victoria and Albert à Londres, on a vu que ces équipes, elles ont pu chacune apporter leur petite pierre à l'édifice et du coup se sentir inclus dans le plan. Et après, ça facilite grandement l'adoption, la mise en place de toutes les mesures. Par contre, c'est important d'avoir un soutien qui vient aussi de la direction et c'est bien comme premier pas, mais ce n'est pas suffisant. Les institutions qui ont sont dans des pays ou des régions avec des attentes de la part des gouvernements performent aussi mieux, comme Iphigenia a présenté le cas en Angleterre. Effectivement, toutes ces institutions, il y a eu cette obligation de reporting en tout cas, et ça a vraiment eu des conséquences très importantes sur ces institutions-là. La taille de l'institution, elle explique aussi une partie du résultat, en tout cas pour la sphère de gouvernance et pour les aspects environnementaux. C'est-à-dire que les plus grandes institutions, elles ont plus de facilité à traiter de ce qui n'est peut-être moins du daily business, comme les enjeux sociaux, mais à aller au-delà. Et c'est souvent perçu la gouvernance comme quelque chose qui fait peur, mais ça peut aussi passer par des plus petites actions. Et du coup, je pense que même les petites institutions peuvent se questionner sur ces manières de procéder pour que ça soit vraiment ancré quelque part, ces questions de durabilité. Et finalement, on voit que les institutions qui étaient en Grande-Bretagne, en Angleterre, ont des meilleurs scores de durabilité. Et là, on rejoint aussi avec cet écosystème très fertile, aussi Julie's Bicycle qui a fortement contribué. Mais on voit que le texte joue un rôle important. À noter toutefois que la richesse d'un pays, le statut des droits politiques ou le type de financement d'organisation n'était pas un facteur qui permettait d'expliquer les résultats. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour se dire que des facteurs très structurels qu'on ne peut pas modifier ne sont pas des obstacles à l'obtention de scores peut-être plus élevés en matière de durabilité. Donc, quelques recommandations déjà au niveau de l'institution. J'inviterai toutes les institutions à faire un état des lieux, définir les priorités, comme on le disait. On ne peut pas agir sur tout, mais d'abord, on explore tout avant de recadrer. Ça permet vraiment d'aboutir à une démarche intégrée en lien avec sa mission, d'avoir un plan d'action concret avec un budget, des responsables, mais aussi en cohérence avec les politiques. D'identifier les opportunités qui peuvent découler de ça, parce que par exemple, on peut avoir accès à des nouveaux financements en intégrant les questions de durabilité, on peut avoir une satisfaction accrue de la part de son personnel, on peut être plus attractif aussi pour l'externe. Et finalement, au niveau macro, on se rend compte qu'on a besoin de plus en plus d'outils, de transparence, de partage d'expérience. Donc des journées comme Céline organise aujourd'hui, c'est vraiment parfait pour ce genre de choses. C'est aussi ce qui ressortait dans les entretiens. Il y a de plus en plus de choses qui se passent, mais en fait, il n'y a rien qui est consolidé, on ne sait plus par où regarder. Donc explorer, échanger. Et retenez ce qui est pertinent pour vous. Donc, pour conclure, les choses bougent. J'ai rajouté Coproc encore à la liste. Les choses bougent. Et en tant que toutes les institutions, tous les acteurs pourraient le faire, je finirai sur cette citation d'un directeur d'un musée qui dit: Nous sommes une institution sociale, donc nous reflétons et devons refléter les intérêts et les préoccupations de nos communautés. Et certainement, la durabilité en fait partie. Et une approche globale de la durabilité, où on a la chance d'avoir une programmation pour faire passer ces messages, mais aussi de questionner ses propres pratiques et ne pas oublier ce qu'on fait dans son quotidien en fait, en tant qu'institution. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Julie. Super, merci beaucoup. Et tu as tenu 15 minutes. Impeccable. Je passe la parole très rapidement à Eddy Pierres, qui est directeur de l'association VARTE et qui organise le festival Panorama de Morlaix depuis 1997. Je vous en ai parlé plusieurs fois, en tout cas du côté luxembourgeois. Il est aussi directeur associé du projet de création de plateformes culturelles dans l'ancienne manufacture des tabacs de Morlaix, le CIOU. Et après l'édition 2022 du Festival de Morlaix qui a réuni 24 000 spectateurs, il s'est retrouvé face à un choix, comme vous l'êtes souvent, j'imagine. Soit il faisait encore plus gros avec l'espoir de remplir les caisses, soit il restait raisonnable en réduisant notamment les jauges. Et il va ici nous parler de ce choix et de ses conséquences. Eddy, je te laisse la parole.
Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, je n'ai pas de PowerPoint, donc, mais c'est bien parce que je vais pouvoir aussi réagir et prendre en compte les interventions avant. Et pour commencer, d'ailleurs, je pourrais parler de gouvernance, puisque ça a été évoqué par Julie précédemment. Dire que je suis directeur, comme l'a précisé Céline, mais je suis aussi cofondateur de Wart. Et ça a une importance parce que Dans nos choix récents, cette question de la transition et de la transmission sont, à mon avis, intimement liées. Et nous sommes deux cofondateurs, pour faire simple, hein, de cette structure il y a 27 ans, moi, en tant que directeur aujourd'hui général, et puis Joran, qui est directeur artistique. Donc forcément, c'est un projet très incarné historiquement, comme le sont souvent les festivals, en tout cas en musique actuelle, avec une forte incarnation, une histoire. Mais dans le cadre de ce changement, ce qu'on visait aussi là, c'était instinctivement, consciemment ou pas, c'était la question de la transmission. C'est pour ça que je disais que les deux me semblent très très liés. Comment on pouvait faire de ce projet très incarné un projet d'équipe et pouvoir passer le flambeau, même si on ne l'a pas conscientisé exactement comme ça aujourd'hui, avec un tout petit peu de recul, c'est ce que je pense. C'est que je pense que ça aide à faire de ce projet un projet d'équipe et non plus un projet de fondateur. Donc voilà, donc ce qui s'est passé effectivement, c'est qu'on a décidé de changer le format du festival. Hein. Pour faire simple, le festival Panorama, jusqu'à là, représentait un tiers du budget de la structure. Hein. On est aussi producteur, accompagnateur d'artistes comme Zao de Sagazan, par exemple, ou Jeanne Adède. Aujourd'hui, il va représenter à peine 10% du budget général. Et en incluant ce projet local dont Céline a parlé, de plateforme culturelle. Au sein de l'ancienne manufacture des tabacs à Morlaix. Donc voilà, on a eu envie de changer ce modèle de festival. Un peu symboliquement, on a commencé par le festival, parce que pour nous, l'objet festival est un objet symboliquement très fort pour communiquer sur ces questions de transition. Et puis, comme vous le savez peut-être et sûrement, les festivals, en tout cas en France, mais je crois globalement un peu partout dans le monde et en Europe en particulier, sont confrontés à des problématiques de taille, d'équilibre de budget, même quand ils sont complets. Et donc, nous, on a voulu arrêter en quelque sorte cette course à l'échalote, on pourrait l'appeler comme ça en France, et penser un peu différemment notre modèle en commençant par donc le festival. J'ai eu du mal au début à assumer ce terme de décroissance, non pas qu'il me déplaise, mais dans le cadre de la promotion, je vais utiliser ce mot-là, de notre nouveau format de festival, il est toujours un peu compliqué et complexe d'utiliser le mot décroissance, on s'est rendu compte, parce que pour le public, il ramenait à moins. Donc, on a eu du mal à assumer ça au début. Aujourd'hui, on l'assume. Donc, on a parlé de transition, on a parlé de décroissance. Mais c'est vrai que cette question de comment on continue à faire d'un festival un événement attractif à travers ce mot décroissance, ça a été une question un peu centrale qui nous a occupés et continue de nous occuper. Dans l'histoire du festival, pour nous, c'était le bon moment après la 25e édition, après tous les questionnements qu'on a eus aussi pendant les périodes Covid, hein, sur ce format, sur l'arrêt de l'activité, sur la reprise. On a voulu juste après le Covid organiser une édition dans le format préexistant pour solder un petit peu ces 25 années autour de ce format, comme le disait Céline, 24, 25 000, on a été jusqu'à 32 000 spectateurs, et puis on s'est fixé comme objectif d'organiser un nouvel événement où on diviserait quasiment le public par 3, et de fait le budget par 2 ou 3 aussi. C'était un objectif ambitieux, dont on n'avait pas vu peut-être parfois tous les écueils et le temps aussi qu'il nous faudrait. Ceci dit, cette question du temps, on l'avait pris en compte, puisqu'on a pris 1 an et demi et on a donc décalé le festival qui traditionnellement avait lieu au mois d'avril, au mois de septembre, pour se donner un peu plus de temps pour construire ce nouveau modèle. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment notre histoire particulière, unique, c'est notre chemin et qu'il n'y a pas du tout dans notre projet l'idée d'amener avec d'autres. Avec nous, d'autres. Si c'est le cas, tant mieux. Hein, si on fait des petits, tant mieux. Mais il y avait l'idée vraiment que ça soit lié à notre histoire, à notre ancrage territorial, réinterrogé à travers ce changement de format de festival. Les raisons qui nous ont amenés vers là, c'est effectivement, je l'ai déjà évoqué, la question du modèle économique. Faire plus gros, pourquoi? Est-ce qu'on aurait même équilibré si on avait fait plus gros? Faire plus petit en prenant moins de risques et en se faisant plaisir aussi un petit peu plus. Il y avait cette question de plaisir, de convivialité qui était au centre de notre préoccupation. Et là, je rejoins la question de l'équipe. C'est-à-dire que ça a été une discussion d'équipe pour savoir comment, en équipe, On prenait et on continue à prendre du plaisir à penser ce festival, tout en ayant une activité qui se développe très fortement ailleurs. Comment cet objet festival pour nous était une manière d'interroger notre avenir. Voilà, c'était typiquement ça qui était au centre de nos discussions. Et puis aussi toutes les accumulations de contraintes qui deviennent très lourdes à porter dans le cadre d'un festival, post-attentat, Covid, réglementation sonore. Voilà, on avait envie de mieux maîtriser notre modèle, peut-être à une plus petite échelle. Je vais prendre un simple exemple ou deux exemples très pragmatiques. On a accueilli jusqu'à là 13 000-14 000 festivaliers. On a une moyenne d'âge sur le festival de 22-23 ans, donc c'est très très jeune. On a forcément, puisque c'est un festival essentiellement, je ne l'ai pas dit, de musique électronique, des questions de prévention, de sécurisation très importantes. Et on est arrivé à la limite un petit peu de ce qu'on voulait faire en termes de restauration responsable, locale, etc. Puisque très sincèrement, la première de nos préoccupations était quand même de nourrir les festivaliers à 2, 3 heures, 4 heures du matin, puisque le festival allait jusqu'à 6 heures du matin. Donc voilà, on arrivait à une limite un peu de ce qu'on savait faire en termes de tri, de développement durable. Et donc on a choisi de repenser ce modèle aussi pour mieux maîtriser. Retravailler par exemple plus avec de la restauration locale. Voilà un petit peu les objectifs qui nous animaient dans cette reformatage du festival que j'évoquais juste avant. D'autres éléments qu'on avait envie de mieux maîtriser, c'était les questions de la parité, de la diversité de notre programmation. Et en fait, on s'est rejoint sur ce point-là avec le directeur artistique pour dire que peut-être on avait fait le tour de ce qu'on avait envie d'accueillir en termes de tête d'affiche en musique électronique. Et peut-être que ce qui nous importait, c'est ce qui a toujours fait l'ADN du festival, c'est-à-dire la découverte, l'accompagnement, et que on arrivait à une limite de ce qu'on pouvait faire en termes, par exemple, d'égalité homme-femme en termes de programmation sur le festival, parce qu'aujourd'hui, dans les musiques électroniques, même si ça progresserait fortement, on compte quand même encore sur les doigts d'une main ou les deux doigts de deux mains, les têtes d'affiche, notamment DJ internationales féminines. Il y en a, mais elles sont souvent très demandées. Et donc, en fait, on voulait repenser le festival un peu différemment aussi pour avoir plus de liberté sur les questions de programmation. On s'est rendu compte que de décroître le festival, ça nous donnait d'autant plus de liberté là-dessus. Je parlais de questions d'équipe tout à l'heure. Ça nous a permis aussi de créer un groupe de travail sur la question de la programmation pour que Jérôme ne soit plus tout seul et qu'il travaille avec les membres de l'équipe. Dans l'équipe, il y a aussi des chargés de diffusion booker, hein, puisqu'on est tourneur. Donc, il a pu travailler avec cette équipe qui est plus jeune aussi, puisqu'on est un festival quand même qui est beaucoup basé sur la nouveauté. Donc voilà, ça a été aussi une manière à différents endroits d'impliquer l'équipe dans le projet. Et aussi de développer la question de la proximité et de l'expérience spectateur qui reste quand même le centre de notre projet festival, c'est-à-dire cette question à la fois d'une programmation qui défriche et d'une immersion dans un univers. Et on avait l'impression que sur ce format de festival, on ne savait plus le faire. Donc on a voulu se recentrer sur ce format centre-ville, puisque désormais le festival a lieu et aura lieu en centre-ville, dans l'ancien quartier de la Manufacture des Tabacs, qui est un lieu magnifique, patrimonial, dans lequel la mise en lumière de ce lieu était plus évidente que sur l'ancien site, qui lui était un parc des expositions en périphérie de Morlaix, qui correspondait plus à nos aspirations et surtout au projet local qu'on développe désormais sur ce lieu qui s'appelle donc le Sioux, en centre-ville, et qui lui aussi est inscrit dans cette manufacture des tabacs. Alors, les prérequis pour organiser cet événement nouveau format, c'était quand même, vous vous en doutez bien, le soutien indéfectible des collectivités locales. Le festival Panorama s'autofinance à 70%, mais 30% du festival est financé par les collectivités locales, par les organismes professionnels. Il était bien évident que si les collectivités locales ne nous suivaient pas au minima au même niveau de subvention, donc c'est-à-dire sans baisse de subvention, parce que le format réduisait, c'était pas possible d'envisager ça, puisque forcément notre autofinancement, mathématiquement, deviendrait moins important du fait de nos recettes moindres. Donc ça, là-dessus, la région Bretagne, le département du Finistère, Morlaix Communauté, la ville de Morlaix, la DRAC et l'État, même si on n'est pas financé directement DRAC-État, ont été tout de suite très sensibles à ce nouveau format comme une manière d'expérimenter. Donc ça, voilà, ce soutien-là a été très fort, mais le soutien aussi des partenaires privés MSN, ce qui était moins évident, mais on a rencontré, je pense, avec eux, alors pas sur les mêmes niveaux de financement, hein, puisque le festival baisse en termes de volume financier, mais on a quand même rencontré aussi certaines de leurs aspirations actuelles, même sur des grosses ou très grosses entreprises internationales, puisqu'on a encore quelques partenariats de ce niveau-là, notamment avec les brasseurs. On rencontrait aussi, je crois, à ce moment-là, leurs préoccupations actuelles. Et donc, on a été agréablement surpris de voir qu'ils étaient capables de continuer à nous suivre sans nous demander tout le temps des chiffres, plus de spectateurs, plus d'impact média. Et d'ailleurs, à propos de l'impact média, c'était aussi une préoccupation du président maire, président de l'agglomération et maire de Morlaix, de savoir comment le festival allait continuer à être un vecteur d'attractivité pour le territoire. Et il a fallu un peu de temps pour le convaincre. Et je crois qu'il est aujourd'hui convaincu que ce nouveau format pose plein de nouvelles questions, n'enlève rien à la qualité de l'événement, au nombre d'artistes présents et du coup à la qualité médiatique et au récit qui s'expose là par rapport au territoire. Donc voilà un petit peu pour quelques éléments. Et on travaillera, hein, je ne l'ai pas dit, mais la prochaine édition aura lieu du 4 au 6 avril 2025. Cette année, on a décidé de ne pas avoir d'édition, hein, pour prendre le temps de bien construire la prochaine édition et de la remettre au mois d'avril. Voilà, on a fait sur cette première édition nouvelle 2023 une petite erreur à notre sens. C'était de positionner le festival en septembre, qui est pour nous une époque moins propice. Et donc, on a décidé de reprendre un peu le temps. Et ça, c'est important de le dire aussi. Notre projet de festival, de nouveau festival, on a tout de suite dit qu'il s'inscrirait sur une durée longue de 4-5 ans, ce qui n'est pas facile à expliquer au public, mais nécessaire pour imaginer un nouveau modèle. Et donc, à partir de là, on a mis en chantier un certain nombre de choses, à travers des groupes de travail. J'ai parlé tout à l'heure du groupe de travail autour de la programmation, mais évidemment autour du développement durable. On a un certain nombre de groupes de travail qui impliquent à la fois les salariés de la structure et le conseil d'administration, avec un chargé de développement durable qui accompagne cette transition sur 4-5 ans avec nous. Donc voilà, c'est tout ça qui est à l'œuvre aujourd'hui. Plein de questionnements, des questionnements aussi liés tout bêtement au fait qu'au moment où on dégrossit un festival, on met aussi en danger certains partenariats. Je pense tout simplement au partenariat transport qu'on avait jusqu'à là avec la SNCF, partenariat SNCF Région Bretagne. Bah forcément, à partir du moment où le festival se relocalise, la question des transports en commun, ils vont permettre aux festivaliers de rejoindre le festival d'un peu partout en Bretagne, se pose, puisque forcément la SNCF ne peut plus mettre de dispositif aussi important. Donc c'est vrai que ça pose d'autres questions sur les modes de transport, puisque même si le festivalier s'est relocalisé, on a encore besoin, hein, sur un événement électro, techno, du public étudiant qui vient des grandes villes, puisque le festival est à Morlaix, 16 000 habitants, 60 000 habitants pour l'agglo. On a besoin des habitants de Ré et des étudiants qui viennent de Brest ou de Rennes. Voilà, donc plusieurs chantiers donc effectivement engagés, mais vraiment. On est aujourd'hui satisfait, on ne regrette pas du tout ce changement et ce virage. Il interroge beaucoup de choses. Il va forcément, dans les années à venir, interroger beaucoup de choses sur le reste de nos activités. Et d'abord, par rapport à notre projet local, c'était notre première volonté de réinterroger ce projet local et le projet de territoire sur 4-5 ans. Voilà, c'est un petit peu aussi de cette manière-là qu'on s'est mis au travail à travers un travail qu'on fait aussi avec d'autres acteurs bretons, puisque j'ai été engagé, moi, il y a peu, dans une action qui s'appelle Redirection, à travers le collectif des festivals bretons engagés pour un développement durable et solidaire. Et on s'est donc mis autour de la table pendant 6 mois avec une quinzaine de directeurs de festivals et de salles bretonnes pour voir comment on allait pouvoir amener la transition, la redirection au sein de nos équipes et comment on allait pouvoir partager nos compétences pour aussi pouvoir être plus forts ensemble. Je pense notamment à ces questions que j'ai abordées précédemment sur les partenariats privés. Évidemment, il y a des enjeux à cet endroit-là. Comment on passe du partenariat avec une multinationale? Comment on devient plus fort ensemble pour amener des entreprises locales ou régionales à à pouvoir nous accompagner dans cette transition. Voilà, c'est des questions, en tout cas à l'œuvre, très pragmatiques, mais moi j'ai toujours considéré, au-delà de l'aspect militant qui appartient à chacun, que très pragmatiquement, cette transition était nécessaire à notre survie à long terme par rapport à nos modèles économiques. Voilà, je m'arrêterai là-dessus pour laisser peut-être la place ensuite à l'échange.
Merci beaucoup, Élie. Merci à tous et à toutes. Attendez, j'essaye de vous... Hop, voilà, de remettre tout le monde. Eh bien, merci, merci aux quatre intervenants, intervenantes. On voit ici que, à travers vos interventions, que bah, la transition écologique, c'est quelque chose de global. C'est quelque chose qui dépasse largement la question des gobelets en plastique. Que vous abordez ça tous les quatre de manière globale, notamment en parlant beaucoup de gouvernance, et aussi, je l'ai remarqué, avec beaucoup de co-bénéfices finalement, hein, puisque vous êtes partis tous les quatre sur les questions de transition et vous êtes arrivés à des questions beaucoup plus larges, beaucoup plus générales. Ce que je voudrais faire, c'est passer la parole très rapidement à la salle. Alors, pour le moment, Julie pose une question. Elle voulait savoir, je suis curieuse de savoir comment ont réagi les festivaliers et festivalières face à cette redirection. Eddy.
Ouais, c'est une question essentielle et centrale. Je l'ai plus ou moins évoqué quand je parlais de comment on présente ce changement. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on avait fait un communiqué de presse, à mon avis, très explicite, très clair et qui a fait beaucoup parler d'ailleurs, puisqu'on l'avait sorti au moment du MAMA event à Paris pour expliquer ce changement. C'est vrai que le public, les professionnels ont très vite compris l'enjeu. Pour le public, soyons clairs, un public d'une moyenne d'âge de 22-23 ans, pour certains qui suivent le festival depuis 4-5 ans, mais souvent pas plus, puisqu'on a un renouvellement de génération, et tant mieux, mais aussi on a un public qui reste fidèle pour quelques années, puis qui change, à l'exception effectivement d'un public local qui nous connaît depuis longtemps. C'est vrai que cette question du long terme, soyons clairs, elle est très très compliquée à travailler avec le public. Et à cet endroit-là, c'est une pression énorme. C'est une pression énorme auprès des équipes qui nous disent, par exemple, parce que cette première édition en 2023 avait plein d'écueils, il y avait plein d'endroits où on n'a pas réussi ce qu'on voulait. Et ça a été plein de questions en interne, mais aussi parce qu'il y a une pression, effectivement, de réussir tout de suite. Et que le public, lui, le temps long, il se rend pas compte trop ce que c'est. Lui, ce qu'il attend, c'est la programmation, quand même, de manière générale. Et je pense qu'il nous faudra 4-5 ans pour qu'un public comprenne notre histoire et ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Donc, effectivement, c'est pas une question simple. On a quand même un public globalement qui attend quand même des têtes d'affiche. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on annonce on aura moins de têtes d'affiche, ou qu'on va construire de l'expérimentation. On sait qu'on travaille sur un certain public fidèle et un petit peu moins sur le public plus volatile, duquel on a quand même besoin, même si on a une dimension de jauge. Donc oui, ça a été très contrasté. Ça a été très difficile avant le festival, je ne vais pas vous le cacher, mais peut-être parce que notre projet n'était pas encore très lisible. Et ça a été très valorisant après le festival, où tous les gens qui sont venus, qui ont vu ce qu'on avait fait. Parce qu'on a fait une étude des publics, et forcément sur cette première année, on a eu des très 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 bons retours des gens présents, des moins bons de ceux qui avaient décidé de bouder l'événement, et on sait que ce public-là, il va être à convaincre.
Merci. On a aussi une autre question pour vous, c'est est-ce que la réorientation vers la décroissance est possible pour différentes tailles de festivals et quels ont été les leviers pour convaincre les politiques et les commanditaires? Moi, je poserai même la question aux quatre intervenants et intervenantes, est-ce que cette réorientation vers la décroissance est possible pour tout le secteur culturel? Peut-être Eddy, vous pouvez commencer pour votre festival.
Bon, faut être honnête, on avait des politiques et locaux et au niveau de la région de Bretagne très sensibles à ces questions-là. On a vice-présidence de la région Bretagne Culture. Je ne sais pas si c'est une vice-présidence, mais en tout cas, l'élu culture est une ancienne directrice de festival, Béatrice Massé, Transmusicale de Rennes. Donc, on avait des gens quand même très, très attentifs. On a un président-maire très attentif à ces questions-là, même si quand même, je l'ai dit tout à l'heure, il était un peu surpris quand même de notre choix de prime abord. Mais on a eu des élus qui ont su lui expliquer que c'était sûrement la bonne voie. Donc, on a vraiment eu beaucoup d'écoute. On a eu la chance d'avoir beaucoup d'écoute d'élus très sensible. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question des dispositifs qui accompagnent ces transitions. Aujourd'hui, on entend beaucoup qu'il y aurait des dispositifs, qu'il faudrait des dispositifs, mais depuis qu'on a mis ça à l'œuvre, nous ou d'autres, aujourd'hui, on n'a pas vu réellement ces dispositifs très pragmatiquement se mettre en place pour accompagner cette transition. Voilà. Et l'autre question, c'était sur les tailles de festival.
Oui, c'est est-ce que toutes les tailles de festivals peuvent être
Alors,
concernées par la décroissance?
nous, je le redis, c'est notre histoire. Je ne pense pas que les festivals changeront la face du monde, mais que symboliquement, en termes d'image, on a quelque chose à jouer, effectivement. Je pense que les festivals sont très médiatiques, donc effectivement, c'est plutôt à cet endroit-là que ça se joue, me semble-t-il, et qu'effectivement, je pense qu'un gros festival qui maîtrise son modèle, mais qui sait le faire évoluer en prenant en compte tous les défis actuels en termes de transition, peut être aussi un atout pour la filière, pour expliquer au public, pour communiquer avec le public et pour échanger sur les questions de transition. Voilà. Donc, je pense qu'il faut un peu de tout dans ce monde, mais je pense que pour les plus gros festivals, en fait, oui, je ne l'ai pas dit, mais nous, notre chance, entre guillemets, c'est quand même d'avoir une multi-activité. Ce qui fait qu'on n'est pas dépendant économiquement du festival. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'association Wart, baisser la taille du festival par trois, ça ne met pas en péril notre fonctionnement et les 23 salariés de la structure. Donc c'est quand même, pour être honnête, plus facile de changer le format du festival quand on sait que diviser notre budget par trois ne mettra pas en péril les différents les salariés de la structure, quoi.
Effectivement. Je poserais bien la question par exemple à Aude, est-ce que tu penses que les musées peuvent aussi prendre cette voie de la décroissance? Ou alors c'est pas une question qui se pose pour le moment?
Si, si, l'ICOM, ils ont fait une ICOM France il y a quelques semaines, a fait tout un congrès là-dessus, enfin une rencontre là-dessus à Rouen, je crois. Elle se pose, elle se pose bien, en fait, mais comme l'avait dit Latouche, Serge Latouche, qui a été invité, qui est un défenseur de la décroissance en France, il a dit, moi, je trouve que la culture ne doit pas décroître. Parce que s'il n'y a plus de culture, on est un peu mal parti. Mais par contre, ce qu'il dit, c'est vraiment il faut l'appliquer au fonctionnement des institutions, donc réfléchir justement à notre productivité d'événements, etc. Et à notre manière de penser notre économie, notre modèle financier. Mais ce qui se passe, c'est que il y a des enjeux d'image, et comme l'avait dit, il a aussi souligné Julie. Les gens qui commencent à s'afficher sur les changements climatiques, etc., ils ont un peu peur parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas exemplaires. Il n'y a aucune institution culturelle exemplaire et elles ne le seront jamais. Je pense qu'il faut rester très humble sur notre capacité à faire les choses. Et comme l'a dit Eddy, c'est une histoire de chaque institution en fonction du dirigeant et de l'équipe qui est là et des élus qui sont présents. Et on le voit même dans les théâtres d'Iphigénia. Moi, ce que je pense, c'est que au Musée des Beaux-Arts de Montréal, ils avaient envie d'aller vers le Slow Museum, mais c'est une des institutions phares à Montréal et au Québec. Et donc, ils se disent comment on peut faire un discours de la décroissance. Donc, maintenant, ils utilisent plus le concept de ralentissement, plus que décroissance, qui est un engagement politique. En fait, c'est un slogan politique. Et donc, là, on entend plus parler de ralentissement que de décroissance. Et ils essayent de réfléchir à la fois sur le ralentissement du collectionnement, le ralentissement du nombre d'expositions, etc. Mais le problème, c'est quand c'est utilisé, ce concept-là, par exemple, les personnes qui travaillent dans la fondation ou les ressources humaines ou les ressources financières, quand il y en a dans les grandes institutions muséales, ils se disent, si on ralentit, on doit couper des emplois. Et donc, je pense, tant que, et ce qu'Eddy a dit sur le fait que tant qu'il n'y a pas d'impact sur les personnes qui travaillent avec nous, On peut réfléchir à ça, mais dès qu'on s'engage dans ça, il va falloir, il faut faire attention en fait. Donc, c'est plein de questions en fait qui se posent actuellement. Mais c'est un discours qui est en train de, qui se développe parce que là, les gens sont fatigués. C'est beaucoup de femmes dans le milieu des musées. Et, donc, il y a beaucoup d'engagement, en même temps, beaucoup d'épuisement. Donc, voilà ce que je peux dire, mais ça rejoint ce que Eddie dit. Et puis,
Oui, c'est ça. Merci. Oui, ça rejoint effectivement d'autres problématiques. Pour Iphigenia, j'ai une question. Are small theaters as committed as big theaters? How do you see the future?
First of all, we have a problem of definition because small, medium, and big theater is difficult to find a common definition across the world internationally. But let's say that no, there is a big difference. Smaller theaters usually struggle with their survival, and even if they want to, they need to be in a very supportive context, such as in the UK or perhaps now in France, in order to be able to engage with sustainability. So in a sense, for them, sustainability is more financial sustainability rather than environmental sustainability. So usually the spotlight is on the big theaters, and especially the big public theaters, who are considered to be serving a greater public mission as well, as it was already mentioned here. We usually see the big public institutions, whether it's theaters, operas, or museums, enter this pathway more often than the smaller institutions. And in fact, in the UK, because it became very clear that although all the cultural institutions of all the different sizes were obliged to work towards sustainability, it was soon after the first few years, it was soon clear that they were not able to do so at the same pace, with the same resources in terms of finances, human resources. And this is why the latest versions of the Arts Council policy create different strands. So you have the smaller and medium theatres, and you have on the other side the big theatres, a program which is called Spotlight, which recognizes that institutions like the National Theatre or the Covent Garden Opera or the big museums are in a different position. And if you want, they also have a different responsibility towards society. So the answer is no, but there are. It's not because smaller theaters are not interested. There are a variety of reasons why they do not follow as much as the bigger institutions.
Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question pour Julie. Est-ce que tu as vu, enfin, tu as une vue d'ensemble et plus spécifiquement sur les grandes institutions? Qu'est-ce qui t'a surpris lors des premiers résultats et comment tu vois la suite de cette tendance?
Bon, il y a beaucoup de résultats qui ont conforté quand même des choses dont on se doutait déjà, on va dire. Mais ce que je dirais que j'ai trouvé plutôt particulièrement intéressant, c'est la diversité des manières de s'impliquer et des raisons derrière lesquelles on s'implique. Donc, de voir comment on part parfois d'un projet très spécifique qui enclenche une réflexion des équipes, peut-être des Green Team, qui va engager la direction, etc., avant d'aboutir à une démarche beaucoup plus cadrée, beaucoup plus globale. Et par exemple, c'était le cas de l'opéra La Monnaie à Bruxelles, en Belgique, qui a d'abord décidé de faire de la place dans ses stocks en jetant certains des décors, une démarche qui a été pointée du doigt par les publics, qui sont ensuite posés la question de comment ils pourraient revaloriser ça, qui ne trouvaient pas de filière, au final, maintenant, ils sont impliqués dans un collectif avec d'autres, le collectif 17h25, je crois, avec d'autres opéras pour standardiser des simèzes, pour justement réduire les déchets et réduire les déplacements aussi associés, vu que c'est des opéras qui font beaucoup de tournées, de projets ensemble. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant de voir comment, en partant d'une petite action, en fait, on vient à questionner toute son institution. Et c'est une porte d'entrée qui est à chaque fois différente selon son institution. Le musée d'ethnographie, justement, de Genève, à la base, il se questionnait beaucoup sur ses collections, comment, voilà, les questions, justement, de colonisation, comment on peut faire, comment on peut traiter ça. Et maintenant, ils questionnent leur propre gouvernance interne. Donc, c'est vraiment comment on entre dans ces. C'est plutôt le processus que j'ai trouvé intéressant plutôt que les résultats, on va dire. Et puis pour la suite, justement, je pense que chaque institution doit trouver un peu sa place, sa porte d'entrée. La décroissance, ça peut aussi vouloir dire énormément de choses. On peut parler, bah, dans le cas de Eddy, de la décroissance des publics, mais après, on peut parler justement de ses collections ou on peut agir au niveau de peut-être juste une exposition pour commencer et pas être effrayé parce que c'est vrai que sinon, ça peut vite faire peur. Et en même temps, il faut commencer par quelque chose. Donc, ouais, choisir. Trouver sa place, son public. Et je pense pas qu'il y a une manière de faire le musée ou l'institut culturel durable. Et bon, pour moi, ce qui est important aussi, c'est que c'est jamais une fin. Enfin, voilà, on est toujours dans un process. Être durable, c'est un processus continu.
C'est une très belle phrase pour conclure, je trouve. Je vais l'heure avance et puis on est déjà arrivé à 15h30, donc je vais arrêter les questions arbitrairement. Si vous avez des questions à soumettre, vous pouvez me les envoyer et puis je les renverrai sur les intervenants intervenantes. Je voulais juste, j'aurais pas le temps de vous présenter tout ce que je voulais vous présenter sur le projet ELO, mais je voulais juste vous présenter la question de des formations. Qu'on va mettre en place, puisque là, c'était la session plénière de lancement de ces formations. Donc, je voudrais juste vous parler de ce qui sera mis en place juste après. Il y a donc le mois prochain, le 18 décembre, une formation qui est presque pleine, mais je crois qu'il y a encore une ou deux places parce qu'il y a eu un ou deux désistements, qui s'appelle Diriger une structure culturelle en transition et qui va nous expliquer. Pendant 7 heures, on va rester ensemble pendant 7 heures et on va essayer d'explorer tous les risques qu'il y a à ne pas s'engager dans une transition aussi, tous les risques que pose le dérèglement climatique aux institutions et puis ce que les directeurs et directrices peuvent faire, quels sont leurs leviers d'action à eux spécifiquement. Ensuite, en janvier, il y aura une formation sur la mobilité culturelle, c'est-à-dire comment on transporte les publics, les personnels et aussi les artistes. C'est souvent une des grosses causes d'émissions de gaz à effet de serre dans les institutions, donc c'est un sujet important, et pas que technique, comme vous le verrez. Après, on prévoit une formation sur la communication responsable, sur le numérique responsable, sur les chartes et les normes, sur la santé mentale du secteur culturel, sur l'accueil des publics, parce que la question de l'inclusion est aussi une question de transition écologique et sociale. Une formation sur la nourriture, là où on va pouvoir goûter des choses. Une formation sur la gestion énergétique des bâtiments, une sur la communication accessible. Une en atelier sur l'éco-conception des costumes, des décors, des scénographies, et une sur la circularité et la gestion des déchets. Ça, c'est ce qui est prévu pour l'année à venir. Il va y avoir une formation à peu près par mois. On va vous prévenir au fur et à mesure. Et voilà, tout sera gratuit et vous pourrez vous inscrire quand vous le souhaitez. Enfin, vous devrez vous inscrire. Quand on vous enverra le lien, on aura un site internet qui devrait être en ligne le mois prochain, donc vous serez au courant de tout ça. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions, etc. Si votre institution a envie de se lancer dans une réflexion avec nous sur la transition écologique et sociale, dites-le nous. Il y a ces formations, mais il y a aussi des rendez-vous plus informels qu'on va faire pour qu'on puisse mutualiser un petit peu dans le secteur. Et voilà, et bah, je tenais d'abord à vous remercier tous et toutes d'avoir été présents. Merci à nos quatre intervenants, intervenantes. Et puis, je vais vous dire à bientôt, je l'espère. Et merci encore.
Merci.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Je suis désolée, Eric, j'ai pas donné ta question parce que il y avait déjà plein de.
C'est pas un souci. C'est pas un souci. Mais c'est la question que je me posais parce qu'ils sont tous sur un même modèle économique expansionniste, hein, même s'ils beaucoup font un gros travail, hein, sur la transition. Mais en même temps, tu vois, il y a par exemple des groupes comme Chacapon qui tournent partout dans le monde entier. Ils ont dit on arrête de tourner parce que c'est plus possible, on ne peut pas tenir un discours comment, de décroissance. Et puis à côté de ça, être toujours en avion, quoi. Donc ça, c'est aussi la complexité. Et puis leur modèle économique est quand même balèze à Warth, hein, parce que de baisser le festival ne met pas en péril la structure, alors que les gros festivals, tous les gros festivals de la grande région, si demain ils décidaient de couper de moitié leur programmation, bah, ils seront obligés, comme ils le disaient, de se séparer de la moitié de l'équipe. Donc, tu vois, c'est une course permanente. Très bien. C'était très bien, Céline. Bon travail. On espère qu'on fera aussi bien demain avec Gaëlle au
Très bien,
Comac.
je suis sûre. Je suis désolée de vous laisser tomber demain. Hein. Je suis.
Non, mais de toute façon, Eva, elle disait, mais soyez pas inquiet là-dessus, ça fait que 4 mois que votre projet est lancé, mais il voulait absolument le faire à cette période-là, tous les ans, etc. Donc, on a vu le PowerPoint qui a été proposé, elle a fait une synthèse, d'autant qu'avec elle, on n'aura pas énormément de temps de parole ou de présentation, hein, et puis en même temps, on n'a pas 50 000 choses à dire.
Est-ce que je dois dire quelque chose d'ailleurs demain?
Oui, ben je ne sais pas, on verra. Hein, je ne sais pas, Gaël, comment ça va se passer. J'ai reçu aujourd'hui, je pense que tu l'as eu, l'ordre du jour.
Non, je ne l'ai pas
Bon,
reçu.
ben je vais te le transférer, tu vois.
Céline, tu
Oui.
peux arrêter le recording parce que je pense
Ah,
que sinon
oui.
après tu vas
Pardon.
devoir.